Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Grimoires de l'Imaginaire. Aujourd'hui, on va parler mythologie. On s'est dit qu'on voulait pas s'arrêter que aux mythologies grecques, même si on aime beaucoup ça, mais parce que c'est quand même ce qui est le plus présent, c'est à la mode en ce moment déjà, et depuis Madeleine Miller et voilà, toute cette grande tradition de réécriture de mythes grecs qui foisonne dans tous les sens, et on s'est dit que ce serait chouette de faire un épisode qui parle notamment mythologie grecque, mais aussi d'autres types de mythologie, et donc comme d'habitude, on aura d'abord une lecture commune, et puis ensuite nos recommandations, qui iront panacher, vous verrez, dans différentes mythologies. Et puis notre lecture commune, c'est « Cœur de sorcière » de Geneviève Gornicek, c'est pas la bonne prononciation certainement, parce qu'elle est anglophone, mais voilà. Ouais.
C'est à la française.
C'est ça. Et donc, c'est un roman qui est sorti en 2021, en anglais en tout cas, je crois, ou c'est la traduction qui est en 2021, tu sais ?
C'est 2023.
Ah oui, c'est ça. Donc, ça se passe dans un environnement de mythologie nordique. On va suivre la sorcière Angerboda, qui est un personnage connu, en tout cas, dans la mythologie nordique. Moi, je connais assez peu. Je sais pas, toi, si t'es à l'aise avec...
Moi, je la connaissais pas. Ouais. Non,
moi non plus. Mais qui est un personnage donc, déjà existant et qui là va être re-romancé et puis où on va suivre toute son histoire en étant vraiment plongé dans son point de vue, un peu à la manière des Madeleine Miller justement dans Le Chant d'Achille ou dans Circé, pour, je sais pas, réécrire les mythes de manière plus humaine, peut-être plus proche des gens et puis mieux comprendre ce qu'il y a d'humain dans les pics, enfin, c'est un petit peu ça les démarches en général.
Ouais, plus proche des femmes aussi.
Aussi des femmes,
ouais. Des points de vue féminins quand même.
Et là, donc, on va suivre le destin de cette sorcière qui a été condamnée par les dieux nordiques, qui s'est fait brûler 3 fois et qui a survécu. Et c'est le dieu Loki, qu'on connaît bien si on a baigné soit dans les Marvel, soit dans plein d'autres œuvres qui ont récupéré Loki. C'est Loki qui va lui rendre son cœur, et puis bah voilà, il y a une relation qui va se tisser entre les deux, et puis ça va être le point de départ du roman, en gros.
Ouais.
Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Et oui, c'est vrai, juste par rapport, vu que le titre c'est « Cœur de sorcière », c'est effectivement le début où en fait, on lui enlève son cœur après qu'elle soit brûlée et tout ça, et Loki lui ramène. Mmh. Et c'est vrai, c'est ça le déclencheur. Donc dès le début, on a l'info sur le titre. Alors, bah, moi, j'ai bien aimé découvrir l'histoire de, d'une des femmes de Loki. Voilà, il en a eu plusieurs. Mais là, en gros, c'est un peu la femme non officielle. Et pourtant, elle a un grand rôle, notamment dans le Ragnarok, qui est en gros la fin du monde, la fin des dieux. Bon, il y a quand même quelques dieux qui survivent après tout ça, mais c'est un événement hyper important. Donc voilà, moi je la connaissais pas. Après, je pense que ceux qui sont un peu plus fans de la mythologie nordique, probablement, voilà, s'ils connaissent Ragnarok, bah, ils savent le rôle qu'elle a joué. Mais en gros, moi je dirais, j'ai trouvé que la structure de l'histoire est extrêmement bien menée, c'est bien écrit, voilà, rien à redire au niveau des... Voilà, on a les petites péripéties, la grosse difficulté, la méga difficulté, et hop, quand tu penses qu'elle est au fond du gouffre, elle remonte et tout ça. Donc on voit que ça a été bien pensé et tout ça. Mais, forcément, il y a un mais, je me suis en fait un petit peu ennuyée. Mm-hmm. Pour t'expliquer, j'avais l'impression de regarder une course de bateau alors que j'aurais dû être sur le bateau, tu vois. Donc, j'avais pas d'embrun sur le visage, le soleil ne brûlait pas ma peau, j'avais juste mes pieds qui avaient mal à force d'attendre à regarder le bateau passer. Donc, bah voilà, en fait, oui, la structure est impeccable, les personnages sont d'une très belle complexité. Moi, j'ai envie de dire... Juste pour Loki, ça vaut la peine de lire le livre, mais mon gros problème, ça a été avec l'héroïne, en fait, parce que je trouve qu'elle n'évolue pas. C'est pour ça que je me suis un peu ennuyée. En fait, du début à la fin, pour simplifier pour les auditeurs, c'est un peu une gentille femme. Elle s'est fait cramer 3 fois, elle a vraiment morflé, mais elle reste quelqu'un de très gentil, qui veut faire le bien, qui en gros a peur d'utiliser ses pouvoirs. Elle est ultra puissante, mais elle dit toujours « Non mais moi j'attends la dernière extrémité pour utiliser mes pouvoirs, donc en tant que lecteur, bah, t'as compris que la dernière extrémité ça va être la fin du livre, et t'attends quoi. » Et pendant tout le long du livre, enfin moi j'avais envie de lui dire « S'il te plaît, un peu plus vite, enfin essaye un peu plus. » Donc voilà, ça m'a... J'ai trouvé ça un peu long, et d'autant plus que j'ai aussi trouvé que dans la façon d'écrire, même si c'était très propre, des belles constructions, voilà, tout ça, je trouvais que c'était un peu impersonnel. Donc en gros, j'ai pas vraiment eu d'émotion pour elle. Elle s'en prend plein la tronche, mais j'étais assez détachée. Alors que, pour les personnages secondaires, j'ai ressenti plus de choses, en fait. Donc, c'est là où je me suis dit, il y a un problème. Je ressens plus de choses pour Loki que pour elle. Donc, voilà, je trouve que c'est un livre intéressant. Moi, ça a pêché au niveau du personnage principal. Est-ce que toi, tu as aimé la fameuse sorcière par cœur?
Moi, j'ai bien aimé. Alors, je vois ce que tu veux dire. Et je pense aussi que le début est assez lent. En plus, il n'y a pas de découpage en chapitres. Il y a juste 3 parties. Et la première partie fait quasiment les 2/3 du livre.
Ouais.
Il y a ce côté interminable aussi, je trouve, qui est alimenté par le découpage. Parce que toute la première partie, c'est la partie la plus statique où on va vraiment installer la situation de départ. Et c'est pas encore l'action, quoi. Le Ragnarok, c'est pas tout de suite. C'est un peu la partie honeymoon où elle se reconstruit, où elle construit son petit univers. Elle est recluse, elle est très peu en contact avec le monde extérieur. Et même si ça a un côté très sympa de découvrir ce tout petit univers nature, calme, ressourçant, après toutes les galères qu'elle a connues, en sachant qu'on nous les balaye très très rapidement dans les premières pages, tout ce qu'elle a pu vivre avant, ouais. Et donc on est direct plutôt dans l'apaisement, ben ça, ouais, je trouvais que j'avançais pas vite. Ça me plaisait bien, mais ça manquait de punch. Et puis après, alors, les parties 2 et 3 sont bien plus intenses, crescendo vraiment, et puis là, oui, j'ai senti plus de trucs. On sent qu'il y aura une trahison, on connaît Loki, on sait que c'est un personnage qui est très instable, et puis qui... En plus, elle a des visions prémonitoires de la suite, donc elle sait déjà qu'il y aura quelque chose qui va mal se passer à un moment, même si elle sait pas comment et pourquoi. Donc nous aussi, on est avertis des grandes lignes de la suite, mais j'aime bien ce processus toujours où on t'annonce quelque chose loin dans le futur de l'histoire, et pour l'instant, au moment où tu le reçois, t'as aucune idée que ça puisse être possible parce que t'es dans une situation qui est tellement différente et qui est tellement mieux, et tu te dis mais c'est pas possible que dans X temps, on sait pas combien, tu vois, ils s'entendent plus, ou il y a vraiment un truc qui fait que, ou une des personnes est disparue ou quoi. Et je trouve que c'est toujours un procédé, sur moi en tout cas, qui fonctionne bien, d'anticipation et de me dire ah ben j'attends de voir comment ils vont réussir à me rendre crédible le fait que ce soit ça l'arrivée, alors qu'on est à ce point là pour l'instant et qu'on en est très loin. Et donc, ça a très bien marché sur moi, ça. Et je pense que c'est ça qui m'a tenu en haleine pendant que le déroulement en lui-même était un peu lent et pas très dynamique. Et j'étais assez satisfaite, tu vois.
Oui, surtout que le passage que tu mentionnes, comment effectivement ça switch et ça change, ça marchait bien, quoi. Elle a très bien géré. Franchement, au niveau du scénar, je trouve que ça marche très bien comme elle a fait.
Ouais, justement, je trouve que, en fait, la première partie qui est lente, elle est quand même rendue haletante un peu par cette attente et par cette carotte au bout du bâton où tu sais ce qui t'attend et que tu dis mais comment c'est possible, et donc tu restes dedans parce que tu veux voir comment ça va se mettre en place, et t'es pas du tout déçu par le moment où ça se met en place parce que c'est très bien fait et c'est très logique et ça fonctionne, quoi. Et donc bon, j'ai lu de manière assez rapprochée aussi, donc je pense que ça m'a aidé à rester dedans, parce que si j'avais commencé à lire par bribes, j'aurais probablement fini par me lasser. Donc j'étais bien dedans, mais mon empathie pour la sorcière, donc pour Angboda, il est arrivé plus tard, je pense. Il est arrivé vraiment quand elle se prend la grosse claque que tu avais vu arriver, mais sans savoir trop et tout. Et le moment où ça arrive, là, j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle. Avant ça, je trouvais que c'était justement assez neutre, assez statique, qu'elle avait finalement pas tant que ça d'émotions. En fait, j'arrivais pas à lui trouver beaucoup d'émotions. J'avais l'impression qu'elle se laissait porter, qu'elle était en mode survie et de toute façon, je suis déjà morte 3 fois, j'attends plus rien de la vie. Et je me suis pas laissée emporter par l'histoire d'amour naissante entre elle et Loki. J'ai pas senti que c'était un truc qui la réveillait et qui la rendait heureuse et tout. J'avais plus l'impression qu'elle était un peu anesthésiée de toute façon et que quitte à vivre, bon ben ça se présente et c'est fort, mais je l'ai pas vécu avec elle.
Oui, moi j'ai eu le même ressenti. Je trouve qu'on nous a pas donné beaucoup d'émotions, on nous a pas fait vraiment l'aimer. Moi, ça m'a manqué. Et même quand elle a eu son méga truc, là, la fameuse méga difficulté où tu dis « Mon Dieu, elle va jamais s'en sortir. » Bien sûr, le héros remonte toujours. Et j'étais là. La façon dont ça a été décrit, ce passage-là, je me suis un peu ennuyée.
Ah ouais.
Moi, j'ai eu un tout petit peu d'émotion vers la fin par rapport à une certaine scène avec ses enfants. Mais là encore, j'étais là, ça aurait pu vraiment être beaucoup plus triste. Mais comme je ne me suis pas accrochée à elle, comme elle m'a un petit peu ennuyée, ça m'a... En plus, vu qu'elle voit le futur, on sait. Et autant ça a marché tout le long du livre, mais à la fin, j'étais là, c'était un peu décevant qu'elle se batte pas. En gros, elle a vu certaines choses et il y a des choses, elle dit, bah là, je vais me battre parce que je vois pas. Et il y a des choses, tant pis, je vais pas me battre. Et des fois, j'ai envie de dire, bah, je comprends parce qu'à force de voir des visions, tu sais très bien qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer. Mais ouais, du coup, il m'a manqué un peu d'émotion parce que c'était comme si elle faisait, ah bah pour ça, on s'en fout. Je dis, ah bah quand même, enfin.
Ouais, en fait, je dirais que si Madeleine Miller, elle est à un côté du spectre, tu vois, où elle a fait vraiment. Avec Circé, par exemple, un bouquin qui est très humain et qui réhumanise énormément un personnage mythologique et qui fait que tu t'identifies énormément à ce personnage et que tu comprends ses réactions et que ça donne vraiment une autre lumière sur l'histoire de départ qui est d'abord très froide et où là, tu te dis « Ah ouais, mince, en fait, ça devait être terrible ce qu'elle a vécu, machin, on comprend et tout. » Où là, tu t'identifies énormément et puis qu'à l'autre bout, t'as la mythologie telle qu'on te la délivre habituellement avec un récit très froid, très épopée, à distance et tout, eh ben, Cœur de sorcière, il est quelque part entre les deux, je dirais. Il a ce côté quand même à vouloir te rendre les événements un peu plus proches de toi et plus proches du présent, et donc un peu moins compté par des bardes de « ça s'est passé il y a 1000 ans », machin. Mais malgré tout, pas autant impliqué et autant actif que dans Madeleine Miller. Donc il faut peut-être pas y aller en espérant du Madeleine Miller. Mais ouais. Pour moi, c'est déjà sympa comme entre deux, si tu veux. Ça me donnait quand même un côté légende ancienne, avec un peu plus de dynamisme et un peu plus d'identification. À prendre comme ça, tu vois, j'ai trouvé ça très sympa et très efficace. Mais effectivement, il ne faut pas en attendre plus d'implication, parce que sinon, bah, ça peut générer juste un peu de frustration, parce qu'effectivement, on va rester assez à l'écart de l'histoire, même si je pense qu'on la ressent bien mieux que si on avait lu son origin story des mythes ouais. De base, tu vois, je pense que...
Oui, parce qu'elle n'est pas tant présente.
Oui, c'est ça, elle est un peu citée comme ça, et là j'aime bien cet exercice toujours de se dire, et si ce personnage qui a servi qu'à deux ou trois moments clés, on lui a inventé le reste de sa vie et on essayait de comprendre ses raisons, et de justifier pourquoi à tel moment, justement, elle n'a pas agi, alors qu'à d'autres moments, elle a agi, et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête entre deux, ben, je trouve ça toujours assez chouette comme exercice de style, et je trouve que c'est bien fait. Mais effectivement, on garde une distance par rapport à d'autres types de récits plus modernes encore.
Tout à fait. Ça reste un bon livre.
Ouais,
hein,
moi, j'ai trouvé ça très sympa. Et en connaissant pas bien la mythologie nordique, justement, j'ai trouvé que c'était une chouette manière parce que quand même, j'avais des bribes. Donc, c'est clair qu'il y a certains personnages où d'un coup, tu dis « Ah oui, clairement, ça me dit un truc. » Et je pensais pas qu'il était né là. Je pensais pas que ça s'était passé comme ça et tout. Et du coup, ça te permet quand même de profiter un peu... de l'histoire au fur et à mesure, de dire je sens venir certains trucs parce que j'ai quelques notions, mais je connais pas assez l'histoire pour savoir comment ça se passe. Je pense que même si tu connais rien à la mythologie nordique, tu vas pas forcément être largué.
Oui, ils expliquent.
Ça prend bien par la main, puis en plus, c'est quand même toujours un peu les mêmes genres de codes, donc t'as toujours une espèce de partie où c'est des dieux qui vivent entre eux et qui ont le pouvoir sur les humains. Enfin, ça ressemble à la mythologie grecque dans certaines logiques de base, donc t'es pas complètement perdu.
C'est clair. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, du coup ?
Non, moi, je pense que ça me va comme ça. En tout cas, j'étais contente. Merci de m'avoir fait découvrir ce livre, parce que je ne le connaissais pas.
Ouais,
et je trouve ça cool que cet exercice, maintenant, soit porté sur d'autres mythologies que la mythologie grecque, justement. Ça permet de varier un peu et de nous faire découvrir d'autres codes qu'on connaît moins, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'était très chouette.
Carrément. Est-ce que tu veux peut-être alors présenter un des tiens ?
Ok. Je me suis un peu gratté la tête parce que justement, comme on voulait varier les mythologies, j'ai un peu galéré quand il a fallu que je réfléchisse à mes recommandations. À la base, je voulais faire de la mythologie égyptienne et honnêtement, j'ai rien trouvé qui revisite vraiment la mythologie égyptienne. Alors, des trucs qui se passent en Égypte, ça tu trouves, mais c'est souvent pas de la fantaisie en fait. J'étais très étonnée de voir à quel point les mythes égyptiens sont très peu revisités dans la littérature. Il y a quelques trucs dans Percy Jackson, tu vois, mais on connaît bien Percy Jackson, c'est aussi beaucoup de la mythologie. Enfin, est-ce que c'est Percy Jackson ou est-ce que c'est un autre personnage du même auteur ? Je sais plus. En tout cas, cet auteur a fait quelque chose en rapport avec la mythologie égyptienne, mais en young adult et assez punchy, d'après ce que j'ai vu. Et j'avais envie d'en trouver d'autres pour avoir du choix, et j'ai vraiment rien trouvé. Donc j'ai dû abandonner mon idée et partir vers d'autres types de mythologie. Et je me suis retrouvée à me rappeler que j'ai lu les Chroniques de Pridin de Lloyd Alexander. Je sais pas si tu connais les Chroniques de Pridin.
Bah non, mais grâce au podcast, quand j'ai vu le titre, j'ai dit « Ah mais c'est Tara, mais les chaudrons magiques !»
Oui, c'est ça.
Donc
oui, c'est ça.
Je connais que grâce à
ça. Bah ouais, en fait, Tara, mais les chaudrons magiques, c'est vraiment un des dessins animés que j'adorais quand j'étais petite, dans les Disney, même si c'est pas le plus connu de Disney, parce qu'il y a du sang, il y a pas de chansons, et donc ils ont fini par avoir un peu honte, je crois. avoir fait ça.
Ouais, non, c'est vrai qu'il a fait peur à beaucoup d'enfants. Ouais.
Et ben moi j'ai adoré. Bon, certainement que j'ai eu peur aussi au début, hein, mais je l'ai vu plein de fois et j'ai trouvé ça génial. Et surtout que c'est justement ça, ça prenait des codes narratifs très différents de ce qui se fait dans les autres histoires. Et en fait, j'ai découvert très tard que c'était une adaptation d'un roman, enfin même d'une saga, qui est assez culte en anglophonie, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est le livre de chevet de beaucoup d'enfants anglo-saxons. Et c'est inspiré très largement de mythologie celte. Et la mythologie celte, je connais assez peu. Bah, je connais Tara Mechou en musique, en gros. C'est un peu là que ça s'arrête.
C'est peut-être pas la, la meilleure
rêve. Et donc, en réalité, il y a 5 tomes. C'est vraiment de la littérature pensée pour les enfants, mais qui se lit à tout âge. Et puis, ça a été traduit une nouvelle fois par Anne Carrière en 2020. Et c'est ça qui a un peu redonné de la popularité à cette saga par chez nous. Parce que ça, il existait déjà des traductions, mais il y a bien longtemps. Et puis voilà, je pense que ça tournait pas trop par ici. Et donc, je me suis procuré les 5 tomes qui ont été traduits chez Anne Carrière, parce que j'aimais bien en plus l'esthétique des romans, ils sont assez chouettes. Et parce que je me suis dit que c'était l'occasion de redécouvrir enfin l'histoire de base de Tara et le chaudron magique, vu que j'ai beaucoup aimé ce dessin animé. Et c'était vraiment sympa. Et du coup, je peux recommander vraiment ces 5 tomes. C'est assez différent dans le ton, parce que je trouve que c'est moins sombre que le dessin animé. Donc je sais pas ce qu'ils ont pris chez Disney pour avoir envie de rendre encore plus sombre. Alors que c'est pas trop leur ligne directrice d'habitude, mais... Là, c'est plus... Il y a quand même des événements, si tu veux, qui sont sérieux et sombres, mais le ton de l'histoire est plus rempli de malice et d'un truc un peu espiègle et plus léger. Alors, les événements du film, je sais pas, ça couvre un peu le 1 et un peu du 2. Enfin, c'est des morceaux choisis, quoi, si tu veux. Il n'y a pas la même histoire dans le même ordre dans les bouquins. Okay. Mais tu suis toujours un personnage principal qui est ce prix d'un, justement, qui est à la base un jeune garçon de ferme, qui va se retrouver embarqué dans une aventure à large échelle. Et c'est un enfant qui va beaucoup évoluer à travers les 5 tomes, parce que les 5 tomes se déroulent quand même sur pas mal de temps. Et il mûrit énormément, et je trouve que plus tu avances dans les tomes, plus tu vas dans des sujets assez profonds. Et il y a un personnage féminin qui l'accompagne, qui est super, que j'ai trouvé aussi très agréable à lire. J'étais surprise en bien, parce que je craignais un peu comme celle de la fantasy classique qui a quelques années déjà. Je me disais que peut-être le personnage principal féminin, ça allait être un peu... un faire-valoir pour le héros, tu vois.
Pas forcément top.
Et en fait, non, elle est cool, elle a beaucoup d'esprit, elle se prive jamais de le remettre à sa place et de lui montrer que lui, il est moins mature qu'elle et qu'il comprend rien à la vie. Et la dynamique entre les deux est très chouette. Et j'étais très contente de retomber sur des éléments qui m'avaient beaucoup marqué dans le dessin animé, comme ce chaudron, qui est un chaudron, en fait, tiré de la mythologie celte, hein, si je dis pas de bêtises, ce chaudron qui ressuscite les cadavres, quand tu mets un cadavre dedans, il revient à la vie. T'as aussi ça dans les bouquins, t'as tout un tas de petits ingrédients comme ça que tu vas pouvoir reconnaître du film si tu l'as vu, ou de la mythologie celte si tu la connais. J'ai trouvé ça vraiment très très agréable et très créatif par rapport à ce qu'on connaît, parce que justement ça s'inspire d'un folklore bien différent. Très chouette, j'aime beaucoup cette saga. Même si c'est assez différent du dessin animé, je comprends que ce soit culte en anglo-saxonie. Je comprends que ça soit culte chez les enfants anglophones, et je pense que c'est très chouette qu'il nous l'ait ressorti par chez nous, parce que ça vaut le coup d'œil.
Par nostalgie, moi je me dis, j'irais peut-être jeter un œil au moins à quoi ça ressemble, tu sais.
Ça a ce côté très épique et très, tu vois, dynamique quoi, pour les enfants, donc ça va plus être proche des mythologies classiques que de la revisite. Faut le voir comme ça.
Ouais,
c'est sympa,
cool.
Justement. Ouais. Et toi, alors, mythologie grecque ?
Je vais enchaîner avec mythologie grecque, mais un jeunesse, que j'avais pris un jeunesse et un adulte, mais vu que t'as commencé par Taram, enfin, slash Pridan, je vais le prendre. Alors, moi, je conseille Vainqueuse, de Jean-Laurent Del Secoro. Bon, moi, j'adore cet auteur. Il était déjà venu dans le podcast, mais parce que je trouve qu'il fait des portraits de femmes très réussis. Donc là, on suit Syniska, qui est donc une princesse de Sparte. Elle est éduquée comme un homme. Alors, il faut quand même savoir qu'au niveau des Spartiates, les femmes faisaient quand même pas mal d'activités qui n'étaient peut-être pas considérées comme féminines. Mais comme elle devait faire des enfants forts, elle devait aussi savoir faire plein de choses. Mais Syniska, elle est quand même éduquée plus comme un homme, hein, vraiment à 100%. Et elle va s'engager auprès d'une déesse à lui offrir des victoires. Donc, bien sûr, suite à cette promesse, elle se retrouve dans des guerres, mais en fait, elle va très vite questionner le bienfait de la guerre et vouloir se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour donner d'autres victoires aux dieux et pas seulement des victoires sanglantes sur le champ de bataille. Et donc, ce fut en fait la première femme à remporter une course olympique. Donc ça, c'est écrit sur la quatrième de couverture, hein, je ne vous spoil pas. L'idée, c'est vraiment de suivre comment cette femme a réussi à remporter ce prix prestigieux malgré le contexte dans lequel elle vivait. Comme d'habitude, donc avec cet auteur, on a toujours une petite fiche à la fin de précision historique. Ça peut être des choses comme par exemple ici, il précise qu'à un moment, il a supprimé un personnage, un enfant, pour éviter de complexité d'histoire à un certain nombre de personnages. Voilà. Donc ça, c'est toujours bien parce que du coup, c'est très très proche de la réalité et les choses qui changent, il le précise. Ce qui m'a plu, de nouveau, bah, c'est comme je disais plus tôt, le personnage de Siniska est très très fin, très humain. Il y a aussi une très belle sororité dans le roman. Les femmes s'entraident, peu importe au final leur niveau de vie, d'éducation, tout ça. On a une relation saphique parce que Siniska vit donc avec la femme qu'elle aime. Et je trouve que c'est un roman qu'on peut lire, bien sûr, adulte. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, franchement, oui, ça aurait même pu être chez les adultes, je pense, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que quand tu es adolescent, lire une histoire où tu as une femme qui assume sa sexualité, qui assume ses choix dans un monde d'hommes, où aussi on voit que certains hommes l'aident, tous les hommes ne sont pas contre elle, et elle a beaucoup de doutes par rapport à ses choix aussi, je trouve que c'est bien, en fait. Mmh. Ça montre autre chose. Et dernier point que je veux préciser, je trouve que c'est très original. En fait, il y a des poèmes dans ce roman, des poèmes chantés par les personnages à certains moments, qui sont des vrais poèmes qui ont été traduits. Point aussi important, certes, de poètes, mais aussi de poétesses, donc de Spar, de la Mésopotamie. Et avoir ce mix entre fiction et vrais poèmes, je trouve que ça apporte aussi une grande richesse. Si on n'aime pas, on peut zapper les vers. On n'est pas obligé de les lire, hein. Mais ça donne de l'ambiance, ça donne de nouveau une certaine richesse de la langue et du vocabulaire qui est très sympa et qu'on voit pas forcément pousser à ce point dans des romans qui sont considérés jeunesse, parce que voilà, c'est un roman qui est paru à l'école des loisirs. Je voulais mettre ça en avant, je trouve que c'est vraiment très très bien et que c'est un roman très cool à lire.
Trop cool. Ah, j'aime beaucoup Del Socorro aussi, donc...
Est-ce que tu connaissais ?
J'ai pas lu celui-là. J'en ai pas lu tant que ça, en fait, de Jean-Laurent Del Socorro, même si j'en ai entendu parler de beaucoup différents. Du coup, non, j'ai pas encore lu celui-là, mais il me fait bien envie.
Ouais, et puis c'est un personnage, de nouveau, que moi, je ne connaissais pas du tout. Alors qu'au final, elle a fait un truc légendaire, quoi.
Ouais, c'est super de pouvoir ressortir des figures comme ça emblématiques pour les remettre à l'honneur. C'est parfait.
Carrément. Alors, vas-y. À toi.
Alors après, donc là, j'étais dans la phase où je trouvais plus d'idées de trucs à recommander. Et je me suis dit, il faut que je lise exprès pour cet épisode, en espérant tomber sur des livres qui vont me plaire, sinon on est foutu. Et donc, j'ai vraiment sondé tout un tas de listes de bouquins qui étaient inspirés de la mythologie. Enfin, voilà, ça m'a pris un peu de temps. Et j'ai vu que mon ami Guy Gabriel Kay, qui est cet auteur canadien anglophone que je trouve très 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 fort, qui est très connu là-bas, culte depuis un certain paquet d'années, et dont j'ai déjà parlé dans l'épisode des livres à la couverture rouge, parce que j'avais lu Les Lions d'Al-Rassan. C'est le seul bouquin que j'avais lu jusqu'à maintenant, en fait. J'ai trouvé ça super bien, et il a fait beaucoup de livres, et c'est souvent des énormes pavés, et c'est en partie pourquoi j'ai jamais rien lu d'autre de lui, même si j'en ai plusieurs qui me font de l'œil. En fait, il a fait une trilogie qui s'appelle La tapisserie de Fionn Avar, qui est sortie il y a un moment, hein. Le premier tome il est sorti en 84, je crois, en anglais. Donc voilà, ça a 40 ans.
Ouais, ça fait long.
Ça avait l'air d'être inspiré à la fois de mythologie celte et de mythologie nordique. Et puis oui, d'ailleurs, avant, dans Pridin, j'ai pas précisé, mais c'est aussi un peu de la mythologie galloise, parce qu'il semblerait que la mythologie du pays de Galles soit un mix entre les mythologies celtes d'un peu ailleurs et leur mythologie locale qu'ils avaient avant d'être envahi. Et donc là, il y a un mix aussi de différentes inspirations, et il y a un peu de la légende arthurienne aussi.
Ah, cool.
Et voilà, donc ça a un gros melting pot de différentes inspirations, et ça me faisait super envie, et je me suis dit, j'essaye, et en fait, c'est super bien, et je suis au milieu du tome 3, sachant que j'ai commencé la saga ce mois-ci. Donc ouais, je me suis bien éclatée, et donc en tout, je crois que si tu additionnes tout, on dépasse les 1000 pages, tu vois, entre les trois tomes.
Ok.
Et du coup, ouais, là, j'en ai lu 2,5, quoi. Et je trouve ça super bien. Alors, il faut savoir aussi que je suis pas très calée en fantasy classique. C'est rare que je lise des romans vraiment, tu vois, très classiques de fantasy, ouais, En fait, j'en connais beaucoup de noms, mais finalement, j'en ai pas lu tant que ça. Même Tolkien, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux il y a longtemps, mais je pense que j'étais trop jeune pour apprécier ça vraiment à sa juste valeur, et ça m'a ennuyée à plein de moments parce que je trouvais ça trop statique, et du coup, je peux pas dire que j'en ai un souvenir incroyable, et je pense qu'il faudrait que je réessaye un jour pour voir si ça passe mieux, mais...
T'as quand même des pages et des pages de description, hein. Ça, je pense
ouais,
que c'est quand même toujours
dur. Ça, je sais. Mais du coup, c'est vrai que ça a jamais été mes codes, le côté épique et... aventure sur aventure où tu t'inquiètes pas trop pour les gens parce que fondamentalement tu sais qu'ils vont bien s'en sortir, enfin tu sais, tout le pré-George Martin où les héros s'en sortaient globalement plutôt bien à chaque fois, c'est pas des choses qui me sont familières, c'est pas des choses qui m'attirent habituellement. Donc quelque part là d'un coup je me suis dit ah bah ça va être l'occasion de lire un truc ultra classique, encensé quand même pas mal par la critique, donc a priori quand même de bonne facture, et en plus assez inspiré par des... Je sais pas si c'est inspiré directement du Seigneur des Anneaux ou si les deux tirent leurs inspirations des mêmes genres d'histoires, mais en tout cas, on sait que Guy Gavrielke a travaillé avec Christopher Tolkien à publier le Silmarillion. Donc clairement, il est dedans, tu vois. Enfin, il doit aimer l'œuvre de Tolkien, ça c'est sûr. En tout cas, il y a pas mal de parallèles que tu peux faire entre les deux univers. Je crois que les cartes du monde se ressemblent pas mal. Il y a un peu les mêmes codes du bien et du mal et des combats... avec différents peuples, et puis t'as le peuple de la lumière, t'as le peuple, enfin, t'as les espèces de peuples là des plaines, tu vois, qui viennent se battre un peu comme des Amazones et tout. Enfin, je pense qu'il y a plein de personnages et de peuples que tu peux rattacher, peux trouver en parallèle entre la tapisserie de Fianavar et le
Seigneur
des Anneaux, même si pour autant c'est pas non plus la même histoire, clairement. Hein, je veux dire, c'est deux trucs très différents. Et la tapisserie de Fianavar, j'ai trouvé ça magique. Dans la façon dont c'est raconté, je trouve que Guy Gavrielke, décidément, c'est un conteur, mais d'une qualité folle, parce que tout ce qu'il te raconte, c'est toujours un peu poétique et un peu beau.
Ah.
Et ça rajoute un côté très majestueux à ces histoires, même si de base, c'est une histoire là qui est pour le coup assez épique, donc tu vois, ça pourrait déjà suffire, mais en plus, c'est tellement bien raconté. T'as toujours ces moments où ça va s'arrêter sur les émotions de quelqu'un, et c'est en quelques phrases, mais c'est tellement beau, et du coup, ça te capte. C'est pas du tout une écriture froide. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche aussi bien sur moi, parce que comme les histoires en elles-mêmes de fantasy classique, je suis pas sûre que ça me capte. Ben, quand la plume est chaude et quand la plume est empathique, ben, tout de suite, ça me garde dedans, quoi. Donc là, alors, rapidement, le pitch, tu vas suivre 5... jeunes adultes qui sont à la base à Toronto, dans une université, ils se rejoignent pour aller écouter la conférence d'un gars. Et très très vite, hein, c'est vraiment dans les premières pages, parce que le but c'est pas de passer trop longtemps sur Terre, mais très très vite ils vont être approchés par un mage et sa source, en fait. C'est un système que j'avais déjà vu dans d'autres bouquins où le mage tire son énergie d'une autre personne qui lui est rattachée à vie, en gros, qui choisit de le rejoindre, mais qui ensuite le sert de réceptacle à sa magie. Et que du coup, la deuxième personne se met vraiment au service du mage, enfin, lui dédie son corps, en gros, et sa liberté d'agir, parce que finalement, il peut plus le quitter, et puis, si le mage épuise sa source, il perd son pouvoir, mais surtout, il tue son compagnon, quoi. Donc, il y a clairement un rapport de force qui est pas égal, et bon, ça va être exploité dans l'histoire et tout, mais bref, donc, ils vont rencontrer un mage et sa source, qui vont les faire venir en Fionavar, et on est dans un contexte où il y a plein d'univers parallèles, mais l'univers source, c'est Fionavar. C'est de là que sont nés tous les autres univers. Et la tapisserie de Fionavar, donc le titre de la saga, c'est en gros la tapisserie qui décrit tous les événements en Fionavar. Et c'est un peu ce délire du tisserand qui serait en train d'écrire l'histoire au fur et à mesure qu'il tisse sa tapisserie, si tu veux. C'est pas quelque chose qu'on rencontre physiquement dans l'histoire, mais c'est chaque fois la métaphore du leur dieu, leur tout-puissant, c'est un tisserand, quoi. C'est le tisserand de la tapisserie de Fionavar. Et ils prétextent qu'ils les font venir en Fionavar parce que c'est la célébration du couronnement de je sais pas qui, et que du coup, ils ont voulu faire venir des gens d'un autre univers pour célébrer ça avec eux, qu'en gros, ils vont y rester 2 semaines, ça va être super, et puis après, ils les ramènent. Et donc, ils se font convaincre assez facilement de les suivre. Et puis, en réalité, bien sûr que c'est plus compliqué que ça, que leur arrivée, elle arrive pas, enfin, elle est pas anodine, que dès qu'ils arrivent, ils vont chacun être embarqués dans des histoires différentes. On en a une, Kim, qui va être tout de suite reconnue par une sorcière du coin qui va dire « À toi, il faut que tu viennes chez moi parce que je sais qui tu es et je te reconnais. » T'as OK. Donc, elle va partir dans son histoire assez ésotérique comme ça avec cette sorcière. T'en as deux qui vont suivre le prince qui aimerait aller courtiser une princesse un peu, tu sais, princesse des sables, qui est à l'autre bout du continent, mais que du coup, ils sont censés pas réussir à accéder jusqu'à son pays parce que le chemin est parsemé d'embûches, et lui, il veut faire un geste grandiloquent pour aller la charmer, et donc ils vont partir avec lui pour le soutenir dans sa quête. À côté de ça, t'en as un quatrième qui avait pas tellement envie de venir au départ et qui a eu un mouvement de recul au mouvement de passer le portail, et à cause de ça, ils l'ont perdu, et il a pop quelque part ailleurs dans le continent, mais ils savent pas où, donc il faudra quand même aller le chercher, et qui va du coup faire sa vie de son côté dans une autre histoire parallèle. Et puis la dernière, qui reste au château, qui a tous ses potes qui sont partis vivre leur vie et faire leur quête, et elle sait pas trop pourquoi elle est là au juste, et combien de temps ils sont partis, et puis elle va se faire enlever très vite, et il va lui arriver des choses abominables. Et donc, ce que j'ai bien aimé aussi pour démarrer dans cet univers, c'est que comme tout s'éclate très vite, tu suis plein d'histoires en même temps, et du coup ça t'accroche, tu vois, parce que t'as ce côté, tu vois, de plein de trames parallèles, où dès que t'as avancé un peu dans une, on va passer à l'autre, et t'as envie de savoir ce qui se passait dans la première, et donc t'es accroché, et ça permet de pas avoir une histoire trop statique et trop plombante, où il faut tout apprendre en même temps, parce que là c'est... T'es avec des personnages qui connaissent rien non plus à Fionn Avar, donc on va t'expliquer les choses en même temps qu'eux les découvrent, et en plus, il se passe plein de trucs, quoi.
Ok.
Et donc, je trouve comme début, c'est très efficace, et au fur et à mesure que tu découvres cet univers, tu te dis, c'est tellement beau, et il va se passer tellement des choses fortes et dures, et ces personnages, ils vont être sans arrêt confrontés à leur liberté de choix, et à des dilemmes incroyables, et à des souffrances terribles, et à ce truc de vouloir à tout prix... que les gens choisissent la lumière et pas les forcer à choisir la lumière, et donc les laisser se faire tenter par le mal et voir ce qui se passe. Et donc ça crée du suspense, ça crée beaucoup d'engagement émotionnel, et t'as plein de créatures qui sont très pures, et il leur arrive plein de trucs affreux. Et donc ouais, je sais pas, il y a une esthétique dans cette saga et dans la plume de Guy Gabriel Kay que je trouve très exemplaire et vraiment à découvrir une fois, quoi. Alors après, c'est très classique, ça reste touffu. Moi, j'aime beaucoup que ce soit baigné de folklore, justement, parce qu'on est dans le sujet mythologie, que ce soit baigné dans le folklore celte, dans le folklore nordique. Il va piocher ce qu'il a besoin pour servir son récit. Et chaque fois, du coup, ben, de nouveau, t'as ce côté un peu exotique pour nous de folklore et de trame narrative qu'on connaît moins. T'as aussi le chaudron, d'ailleurs, qui sera utilisé, ce fameux chaudron qui ressuscite les morts. T'as un arbre qui fait pas mal penser à l'arbre Yggdrasil dans la mythologie nordique. T'as des emprunts comme ça, et t'as cette légende arthurienne qui débarque un peu au milieu de ça, et ça aussi c'est chouette, parce que pour le coup, moi, la légende arthurienne, je la connais mieux que les mythes nordiques et celtes, donc ça me permet de plus me raccrocher à des choses que je connais. Et ça joue un peu avec ça, avec du suspense de, ben si tu connais, tu vas deviner quelques trucs, mais si tu sais pas, et ben on va exprès jouer un petit peu avec ça, et puis on va te l'expliquer plus tard, et dans tous les cas, ce sera puissant, et dans tous les cas, ça va te... Enfin, il y aura beaucoup d'émotions qui vont arriver à des moments clés. Et ouais, je trouve ça très beau. Vraiment, en fait, je suis tout à fait emballée. tu vois, je lis pas assez de fantasy classique pour savoir à quel point c'est innovant et à quel point ça a des faiblesses peut-être du genre que j'identifie pas parce que j'en lis pas assez. Mais en novice comme ça, qui avait quand même envie de se taper un truc un peu costaud parce que je savais, enfin, j'étais préparée à ce que ce soit potentiellement pas simple à lire. Hein,
ouais.
Et assez dense, ben franchement, je suis à fond dedans et je trouve ça extrêmement agréable à découvrir et très, très, très beau, vraiment. Je te recommande.
J'adore comme t'en parles. Tu vois, je me dis, eh ben voilà, il y a l'émotion, il y a l'empathie, ça y est, t'es à fond. Et là, tout de suite, je me dis, ah bah écoute, peut-être que je vais quand même rajouter ce pavé sur ma pile à lire.
Je sais pas, je trouve il a un truc, quoi. Alors, je sais pas quoi te dire, parce que je peux pas te sortir forcément des citations, tu vois. Je me disais, je sais pas comment décrire la poésie de sa plume, parce que c'est pas comme si chaque phrase était une espèce de bijou d'orfèvrerie que tu pourrais lire hors contexte, ouais. Et puis dire, rends-toi compte comme c'est bien tourné. Enfin, pour ça, j'ai d'autres exemples de plumes qui sont plus directement poétiques ou directement belles, mais c'est les scènes, je sais pas, c'est la façon dont tu te représentes les scènes, et c'est la retenue aussi dans les émotions, tu vois, de te dévoiler juste ce qu'il faut, puis de voir ces personnages qui sont pas en train de s'épancher dans tous les sens, mais qui, en fait, ont été très abîmés par la vie, et qui ça fait qu'à ce moment-là, ils vont réagir de cette manière-là, et que tu sais qu'ils auraient envie de réagir autrement, et t'as un autre personnage qui va dire « Mais pourquoi tu réagis pas autrement ?» Et t'es comme ça, et tu comprends pourquoi ils le font. Enfin, ça, c'est très subtil, en fait. Ça s'épanche pas, mais ça fait ça avec beaucoup de délicatesse. Et en tout cas, moi, je suis extrêmement cliente de Guy Gabriel, qui est décidément, et donc c'est sûr que j'en lirai d'autres, maintenant que c'est mon deuxième et que ça se passe bien.
Ok. Combien de tomes, pour les auditeurs, qu'on leur dit ?
Il y en a 3. Ouais, je suis bientôt à la fin, là.
Tu m'enverras un texto.
Ouais, c'est ça. Et voilà, c'était ma dernière recommandation. Il reste ton grec adulte, c'est ça ?
Exactement, retour en mythologie grecque. Cette fois, j'ai pas pris un personnage pas connu comme Syniska. J'ai choisi un personnage connu, donc c'est Ariane de Jennifer Saint, de nouveau. Ça doit être Saint en anglais, mais bon, bref, on va dire à la version française. Donc elle, c'est une autrice qui a décidé de se spécialiser en mythologie grecque. Voilà, elle fait plusieurs femmes de la mythologie grecque. Et Ariane, en fait, en gros, c'est un mythe assez connu, c'est-à-dire, tout le monde sait, voilà, c'est la fille de Minos, le roi de Crète, c'est la sœur du Minotaure. Et son histoire, à chaque fois, c'est qu'en gros, elle flash sur Thésée, qui arrive pour combattre le Minotaure, lui en tant qu'esclave, et elle va lui expliquer comment sortir du labyrinthe, et donc il va tuer le Minotaure. Voilà, ça, c'est la partie qu'on connaît. Mais là où moi, j'aime bien parler de ce livre, c'est parce qu'en fait, Ariane, en fait, a une histoire après. Et ça, on connaît beaucoup moins. Je suis allée voir, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a plusieurs versions de la vie d'Ariane après. Et ça, j'adore, parce que laquelle est vraie, laquelle n'est pas vraie, on ne sait pas. Donc l'autrice, elle a choisi de nous raconter une des versions. Voilà, après, c'est au choix, hein, bien sûr. Donc on va suivre celle où Thésée, après avoir couché avec Ariane, l'abandonne sur une île, en gros pour qu'elle y meure. Voilà, un mec sympa.
C'était la version que je connaissais.
Voilà, le héros qui veut pas trop que d'autres personnes brillent avec lui, tu vois. C'est un peu ça. Donc, heureusement, Ariane est trouvée par Dionysos, parce qu'en fait, c'est une île où Dionysos va régulièrement et il l'aide à survivre. Voilà. Donc après, il y a encore plusieurs versions de la fin d'Ariane avec Dionysos. Pareil, voilà. J'ai beaucoup aimé celle qu'a choisie l'autrice. Ce qui est vraiment bien dans cette histoire, c'est que Ariane, c'est une fille qui a vraiment des valeurs. C'est pour ses valeurs qu'elle s'est battue, c'est pour ses valeurs qu'elle a osé affronter son père et aider Thésée. Mais elle a quand même un petit côté naïf. Elle se retrouve embrigadée là-dedans, mais du coup, en fait, je trouve qu'on s'attache à elle parce qu'elle est présentée en nuance. Voilà. De nouveau, elle est certes un peu naïve, elle ne connaît pas non plus tout, c'est une princesse de Crète, mais elle a quand même ses idées et tout ça. Elle a été ultra courageuse, donc c'est un personnage intéressant. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce roman, c'est qu'on partage aussi le point de vue de Phèdre. Phèdre, qui est sa sœur, la pauvre épouse Thésée, sans savoir ce qu'il a fait à sa sœur. Voilà. Donc Thésée, vraiment... Il arnaque toute la famille, en gros. Il tue le frère, il couche avec les deux sœurs, il défonce le père grâce à la guerre derrière. Enfin, voilà quoi. Ce roman, c'est plutôt finalement le destin de ces deux sœurs. Certes, ça ne révolutionne pas le genre. Hein, on est vraiment dans le récit classique et tout ça. Mais c'est très bien fait. Et franchement, rien que pour ça, je trouve que ça vaut de le lire. C'est vraiment un bon roman de réécriture de mythologie. On passe un super bon moment. Les personnages sont bien présentés. Donc moi, je le conseille. L'autrice a fait deux autres réécritures. Donc une, c'est Électre, qui présente le destin de trois femmes liées à la guerre de Troie. Et l'autre, c'est Atalante. Donc voilà, Électre a eu de moins bonnes notes, on va dire. Mais Atalante a des bonnes notes comme Ariane. Peut-être que ça vaut aussi la peine de lire Atalante. Mais en tout cas, Ariane, pour moi, est un super exemple de réécriture de mythologie grecque. Perso, j'ai lu Circé, tu vois, aussi. Et par exemple, j'ai préféré Ariane à Circé. Même si je sais que Circé a eu un succès mondial et tout. Circé m'avait un petit peu... J'avais trouvé qu'elle était victime tout le long de sa vie. Et Ariane, elle commence pas mal victime, mais... Mais elle essaye de remonter la pente quoi, plus rapidement que Circé. Voilà. Je le conseille avec plaisir.
Ah cool, c'est vrai que ça m'intéresserait parce que pour le coup, j'étais en train de me dire ça en t'écoutant. Ariane, c'est vraiment un exemple pour moi de ces personnages qui sont juste des faire-valoir dans les mythes de base et qui ont servi juste à avoir la bouche en cœur et à aider le héros et puis à se faire larguer sur une île. Et que tu te dis, comment est-ce qu'on peut redonner de l'épaisseur à ce personnage? Qu'est-ce qui pouvait être sa motivation? Est-ce que c'était juste la nana un peu cruche qu'on nous dépeint dans l'histoire de base parce qu'on donne vraiment trop peu d'infos sur elle pour se faire une idée? Et comment en faire un personnage plus intéressant et plus vivant et qu'on a envie de suivre, tu vois? Et donc, je serais assez curieuse de voir comment ça a été traité.
Si tu regardes dans son histoire, donc dans une des fins possibles, du coup, je peux pas dire pour pas spoiler, mais il y a de nouveau plusieurs fins et elle prend vraiment dans une des fins possibles, elle prend une place vraiment importante auprès de Dionysos. Et c'est vrai que moi, j'étais pas du tout au courant. Et tu vois, je me suis dit, après, on peut pas tout connaître. Il y a tous les mythes, surtout que là, il y a plusieurs versions en plus. Mais du coup, je me suis dit, moi, je l'ai toujours connue comme effectivement la pauvre nana amoureuse de Thésée qui se fait avoir. Alors que dans cette histoire, elle a un petit peu plus, effectivement.
Trop bien. Ah, c'est chouette. On a de nouveau bien varié.
Ouais, voilà, je suis désolée. J'ai fait la facilité en prenant la mythologie grecque. Mais tu as rattrapé.
Non, mais t'as très bien fait. De toute façon, ça aurait été bien dommage qu'on ne parle pas du tout de mythologie grecque. C'était juste l'envie de se dire qu'on voulait pouvoir montrer différents types de réécriture et pas faire 5 recommandations mythologie grecque.
Ouais, c'est ça.
Mais j'espère qu'ils feront de la mythologie égyptienne un jour, parce que ça manque, voilà.
Oui. Ok, bah super. Écoute, bah, je te propose de terminer là, sauf si t'as autre chose à rajouter.
Non, ça me paraît bien.
Parfait. Alors, on dit comme d'habitude aux auditeurs à bientôt pour des nouvelles lectures de l'imaginaire. Au revoir.
À bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. À bientôt !